Véroa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Eric Manirakiza et Anne Albertson avec vous en direct de Washington. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 17 novembre 2017. D'abord le sommaire.
Au Zimbabwe, Robert Mugabe ne veut pas lâcher le pouvoir et refuse de démissionner. Selon une source militaire, il tente de gagner du temps.
La Cour suprême kenyane rendra sa décision lundi sur la réélection le 26 octobre de Uhuru Kenyatta. La Cour a fini l'examen de deux recours en annulation.
En République démocratique du Congo, arrestation d'un présumé chef milicien des Kamuina Tsapu pour une affaire de décapitation au Kasaï.
Le G5 Sahel peine à trouver les fonds requis pour exécuter sa mission.
Aucune armée prise individuellement ne peut arriver au bout de ce fléau.
Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères.
Ici aux États-Unis, la réforme de la fiscalité adoptée hier par la Chambre des représentants.
Et ne manquez pas votre page des sports ainsi que l'actualité économique en Afrique après le journal.
Un incendie d'origine indéterminée a ravagé cette nuit une partie de l'Assemblée nationale du Cameroun à Yaoundé. L'incendie s'est déclaré dans la soirée à l'intérieur de l'aile administrative de l'Assemblée sur la partie avant du bâtiment. L'hémicycle a apparemment été épargné.
Toujours pas de dénouement de la situation à Harare. Le président Robert Mugabe est encore en résidence surveillée. Il a rencontré pour la première fois hier, le chef de l'armée, le général Constantino Chiwenga, à la présidence à Harare. Des émissaires de Jacob Zuma ont également participé à ces discussions. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
D'après une source militaire, Robert Mugabe a refusé de démissionner, sans doute pour gagner du temps. Le président Jacob Zuma, fidèle soutien de M. Mugabe, a dépêché ses deux ministres à Harare. Ils ont participé à une réunion avec le président Mugabe et le chef de l'armée, a indiqué un porte-parole de la présidence à Pretoria. Aucun détail n'a été donné sur la teneur de leur discussion. Des images diffusées par la télévision d'État après la rencontre ont montré le président Mugabe aux côtés du général Chiwenga. L'armée est intervenue après l'éviction la semaine dernière du vice-président. Emmerson Mnangagwa s'était opposé à la première dame Grace Mugabe pour la succession du président. Monsieur Mnangagwa faisait figure de dauphin potentiel de Robert Mugabe. Un porte-parole des militaires, le général Sibosuyo Moyo, a pourtant expliqué que l'opération avait pour seule cible les criminels autour de M. Mugabe, en clair, les partisans de son épouse. Plusieurs voix internes, notamment celle de Morgan Tsvangirai, chef du mouvement pour un changement démocratique MDC, veulent une transition vers des élections libres. Selon l'analyste Nox Chitio, les militaires veulent que M. Mugabe signe sa démission au plus vite et souhaiteraient avoir un président de transition qui serait probablement Mnangagwa. L'Union africaine s'en est remise à la médiation de l'Afrique australe pour trouver une solution à cette crise, a déclaré hier à Washington son commissaire pour la paix et la sécurité, Smaila Chergui.
Au Kenya, la Cour suprême a achevé hier l'examen de deux recours visant à obtenir l'annulation de la présidentielle du 26 octobre, remportée par le sortant Uhuru Kenyatta. Des précisions avec Anastasie Tudiech.
La Cour rendra son jugement lundi, date limite autorisée par la Constitution. Elle a examiné les recours déposés par un homme d'affaires et ancien député, ainsi que deux responsables d'ONG. Ils remettent en cause le manque d'indépendance de la commission électorale. Ils ont également rappelé que le président de cette commission, Wafula Chebukati, avait avoué son incapacité à garantir une élection équitable et dénoncé des interférences politiques avant de changer d'avis. La plus haute juridiction kényane avait créé la sensation le 1er septembre en invalidant le premier tour de la présidentielle du 8 août, remporté par M. Kenyatta. Un nouveau scrutin a eu lieu le 26 octobre, boycotté par son rival Raila Odinga. Si les six juges de la Cour suprême valident l'élection de M. Kenyatta, il sera investi le 28 novembre. Sinon, une troisième élection devra être organisée dans les 60 jours.
Anastasie Tudiech, en République démocratique du Congo, un chef présumé des Kamuina Nsapu a été arrêté dans une affaire de décapitation. Cette milice est impliquée dans des violences au Kasaï. Le point avec Solange Nyamulisa.
Ngalamulume Wangalamulume a été arrêté mardi. Pour l'instant, le présumé chef milicien est auditionné par la justice militaire. Il est soupçonné d'avoir ordonné la décapitation de 6 personnes chargées de superviser des épreuves du baccalauréat tombées dans une embuscade le 31 mai 2016. Malgré le versement d'une rançon par les autorités de la province du Kassai central, ce chef milicien aurait ordonné la décapitation de 4 inspecteurs de l'enseignement, un conseiller du ministre provincial et leur chauffeur. Selon l'Église catholique, les violences entre forces de sécurité et la milice Kamuina Nsapu ont fait plus de 3000 morts depuis septembre 2016. L'ONU a dénombré plus de 80 fosses communes et enregistré 1,4 million de déplacés. 2 experts de l'ONU y ont été tués alors qu'ils enquêtaient sur ces violences. L'un des deux avait été décapité. Les violences ont commencé après la mort en août 2016 du chef coutumier Kamuina Nsapu, tué dans un assaut des forces de sécurité après s'être opposé au président Joseph Kabila.
Le gouvernement guinéen a levé plus de 20 milliards de dollars d'engagement pour financer un plan quinquennal de développement. C'était dans une rencontre à Paris avec les partenaires publics et privés de la Guinée. La France a promis 591 millions de dollars. Certaines puissances émergentes comme la Chine, la Russie et l'Inde étaient aussi présentes. John Lyndon.
Près de 300 participants, investisseurs privés ou représentants de pays partenaires étaient conviés à cette rencontre. Je tiens à remercier les investisseurs et bailleurs qui nous font confiance aujourd'hui. La Guinée leur garantit un développement qui profitera non seulement à toute la population guinéenne, mais également à toute la grande région de l'Afrique de l'Ouest, a réagi le président guinéen Alpha Condé dans un communiqué annonçant que l'objectif initial a été largement dépassé. Reconnaissant que certaines promesses de financement ne sont pas toujours suivies des faits, le président guinéen a toutefois souligné l'importance du suivi pour que cet élan ne s'arrête pas qu'aux promesses. Le plan de développement 2016-2020 du gouvernement guinéen vise entre autres à développer les infrastructures, mais aussi l'agriculture. Près de 80% des terres arables ne sont pas cultivées dans ce pays, pourtant l'eau plus arrosée de la sous-région, avec plusieurs fleuves et affluents.
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture juge insuffisants les progrès dans la lutte contre la faim. C'est dans un rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition en Afrique. Quelques 200 participants de 40 pays du continent ont pris part hier à Abidjan au colloque africain sur les systèmes alimentaires durables pour des régimes sains et une nutrition améliorée.
Khartoum et Washington envoient de tenir des pourparlers pour retirer le Soudan de la liste noire d'États soutenant le terrorisme. Parallèlement, le Soudan doit cesser ses liens avec la Corée du Nord pour prouver sa bonne volonté envers Washington.
Une conférence nationale entre les acteurs libyens se tiendra en février. D'après le représentant de l'ONU pour la Libye, Ghassem Salamé, ces assises visent à adopter une charte nationale. Une occasion pour les Libyens de réaffirmer leur histoire nationale commune et de s'accrocher sur les étapes à franchir en vue de décider de l'avenir politique du pays.
Ici à Washington, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson reçoit aujourd'hui ses homologues africains ou leurs représentants. La rencontre est consacrée au commerce et à la sécurité. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, est également à Washington pour y participer.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a rejeté deux projets de résolution américaine et russe sur les attaques chimiques en Syrie. L'enjeu était de prolonger d'un an le mandat des experts internationaux enquêtant sur ces allégations. Le Japon a ensuite fait circuler un projet de résolution pour une extension de 30 jours, un délai qui permettrait de trouver un compromis.
Ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump juge troublantes les accusations d'agression sexuelle formulées contre Roy Moore, le candidat républicain au poste de sénateur de l'Alabama. Toutefois, M. Trump a dit qu'il ne lui appartient pas d'exiger son retrait. Roy Moore est un ancien haut magistrat de l'Alabama et champion de la droite religieuse. Il a été lâché par les chefs républicains du Congrès ainsi que par de nombreux sénateurs de son parti.
Et le président Trump décidera en début de semaine prochaine de réinscrire ou non la Corée du Nord sur la liste noire des États soutenant le terrorisme. Une mise au ban symbolique réservée aux pires ennemis des États-Unis. Les États-Unis veulent monter la pression sur le régime de Kim Jong-un et l'isoler encore plus sur la scène internationale pour le contraindre à renoncer à son programme nucléaire.
La Chambre des représentants a adopté hier la réforme de la fiscalité chère au président Trump. La balle est désormais dans le camp du Sénat, mais la prochaine étape au Sénat s'avère compliquée, la majorité républicaine y étant moins fiable. Des détails avec Abdourahmane Dia.
Pour Paul Ryan, le président de la Chambre, voter cette loi est la chose la plus importante pour retrouver la croissance et aider la classe moyenne. Selon lui, une famille de 4 personnes gagnera 1 182 $ de plus chaque année avec cette réforme. La majorité républicaine a obtenu le nombre de votes nécessaires malgré l'opposition des démocrates et de 13 des 240 élus républicains. Peu avant, le président Donald Trump s'était rendu lui-même au Capitole pour rencontrer le groupe majoritaire, insistant pour que les représentants républicains tiennent leur promesse électorale de baisser les impôts. Mais la victoire est loin d'être acquise car une poignée de républicains menace de faire défection au Sénat qui a sa propre version d'une loi sur la fiscalité. Si on échoue, on est mort, a résumé sans détour le sénateur républicain Lindsey Graham. Avec 52 sièges sur 100, les sénateurs républicains ne peuvent se permettre que 2 défections.
De son côté, le Congrès américain a adopté à l'unanimité près de 700 milliards de dollars de dépenses militaires pour l'année budgétaire 2018. Ce montant dépasse ce que Donald Trump avait réclamé.
De fortes pluies s'abattent sur Haïti depuis 2 jours. 5 personnes ont trouvé la mort et plus de 10 000 maisons ont été inondées, indique le premier bilan partiel de la protection civile. Les conditions météorologiques ne devraient pas s'améliorer avant la fin du week-end. Le cruel manque d'infrastructures permettant l'évacuation des eaux de pluie entraîne régulièrement d'importants dégâts matériels dans les principales villes de l'île. La police nationale d'Haïti a reconnu la mort d'au moins 7 civils lors d'une opération anti-gang menée lundi. Par ailleurs, 2 policiers ont été tués durant ce coup de filet. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Pour l'actualité économique, nous retrouvons Blanche Sanou.
Dans le cadre d'un plan quinquennal, la Guinée organise à Paris une rencontre avec les partenaires publics et privés pour tenter de mobiliser 13 milliards de dollars. Le président Alpha Condé a indiqué qu'une nouvelle Guinée est en marche. Après l'épidémie d'Ebola et la chute des matières premières, la croissance du PIB a rebondi en Guinée à 6,6% en 2016, selon Makhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. La compagnie Air Sénégal signe un protocole d'accord pour l'acquisition de 2 Airbus A330 pour 510 millions de dollars. Elle se positionne comme la première compagnie à acquérir cette nouvelle génération d'avions produits de l'avionneur européen Airbus. Air Sénégal prévoit d'exploiter les 2 appareils pour développer son réseau de lignes moyens et longs courriers. Au Rwanda, le gouvernement veut lancer le 4e plan stratégique de transformation de l'agriculture en 2018. Cette feuille de route vise à développer l'agriculture à travers le renforcement de la recherche et de l'innovation, la création de valeur ajoutée ainsi que l'amélioration de la sécurité alimentaire. Les résultats escomptés pour l'horizon 2023 est d'accroître la production agricole de 10% et de réduire la faim à 21,8%. L'agriculture contribue à hauteur de 30% du PIB et emploie environ 80% de la population active au Rwanda.
Et nous passons directement au sport. Nicolas Pinon, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le football ne peut pas manquer. L'ex-patron de la Comebol va être extradé aux États-Unis.
Et oui, l'extradition vers les États-Unis de l'ex-patron du foot sud-américain Nicolas Leos a été acceptée ce jeudi par le juge paraguayen Humberto Otasu, mis en cause dans le FIFA Gate, le scandale de corruption qui agite les instances mondiales du foot depuis 2015. Le dirigeant de 89 ans est soupçonné d'avoir touché des pots de vin en échange de l'attribution des droits TV des compétitions organisées par la Confédération sud-américaine. Actuellement assigné à résidence dans sa maison à Asunción, il pourra faire appel de la décision.
Tout à fait, Nicolas, il pourra faire appel de la décision. Eh bien, le Gabon et Djibouti sont exclus du CHAN 2020.
La commission d'organisation du CHAN a décidé de la suspension du Gabon et de Djibouti pour la prochaine édition de l'épreuve prévue en 2020. Les 2 pays sont sanctionnés en raison de leur forfait lors des qualifications de l'édition 2018. Le 5 août 2017, quelques jours avant son match des éliminatoires face à la Guinée équatoriale, la fédération gabonaise avait fait parvenir une lettre de renoncement à la Confédération africaine de football. La fédération djiboutienne avait fait la même chose le 17 juillet. Allez Eric, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui Nicolas, il y avait 2 rencontres hier soir. Courte victoire de Boston Celtics sur Golden State de Stephen Curry, 92 à 88. Houston Rockets a battu Phoenix, 142 à 116. Et c'est tout pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manilakiza. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Zimbabwe, la confusion règne toujours sur le sort de Robert Mugabe. L'armée le retient encore en résidence surveillée et l'oblige de jeter l'éponge. Mais M. Mugabe s'accroche. Est-ce que les Zimbabwéens, les premiers concernés, parlent de coup d'État ? Jacques Aristide a posé cette question à John Stewart, directeur de Novasc, une ONG de défense des droits de l'homme à Harare, qui a participé hier à Washington Forum sur VOA Afrique.
Ici, on ne le voit pas comme coup d'État. En fait, les déclarations des militaires ici étaient très claires qu'ils n'interviendront pas dans la gouvernance du pays. Ils veulent une transition facilitée par les militaires. Il s'agit en fait plutôt de régler quelques comptes au sein du parti ZANU.
Robert Mugabe, retenu apparemment à son domicile, mais se porte bien d'après son ami, le président sud-africain Jacob Zuma. Les militaires, pour leur part, disent que Mugabe et sa famille sont sains et saufs. Mais dites-nous, John Stewart, que savez-vous du sort de Mugabe ou sa femme, Grace? Qu'est-ce qu'on est en train de dire en ce moment à Harare sur eux?
Mugabe a entretenu une rencontre avec les militaires à son bureau officiel au centre de Harare. Et donc, il est sorti de sa maison qui se trouve à 10 km au nord de la ville. Il semble être sain et sauf. On a vu des photos qui sont sorties par le journal principal du pays. Sa femme est toujours à Harare, bien qu'on a eu des rumeurs, et la ville est pleine de rumeurs, qu'elle était partie vers la Namibie. Mais il semble que c'est faux et elle est toujours à Harare.
Et dites-nous brièvement, dans les rues, comment réagissent les Zimbabwéens face à ce coup de force militaire?
Il n'y a pas eu des empêchements de quoi que ce soit, sauf que les bâtiments tels que le Parlement et quelques bureaux du gouvernement ont été contrôlés par les militaires, ainsi que l'aéroport. Mais les vols internationaux sont arrivés, les gens ont pu circuler sans problème, les banques étaient ouvertes, tout fonctionnait. En général, il y a très peu de gens qui agissent contre cette action des militaires. Les gens, en fait, plutôt se réjouissent de cette situation, bien qu'on est toujours dans l'incertitude.
John Stewart, directeur de Novasc, une ONG de défense des droits de l'homme à Harare.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le G5 Sahel manque de financement. La force conjointe du Mali, Burkina Faso, Mauritanie et Tchad a besoin de 423 millions d'euros annuels pour fonctionner. À ce jour, un quart seulement des fonds a été réuni pour permettre à ces cinq pays de lutter contre le terrorisme dans le cadre de cette force régionale. Nicolas Pinault a reçu dans les studios de VOA Afrique Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères.
Alors, nous attendons des engagements assez forts de la part des États-Unis sur le plan commercial, sur le plan économique, dans sa relation en tout cas avec l'Afrique. Pas seulement qu'on se réunisse juste pour faire des grands shows, pour réfléchir, pour parler et autres. Il faut qu'il y ait des mesures fortes qui soient prises par les États-Unis en vue d'améliorer la relation avec l'Afrique. Il y a déjà eu des choses qui ont été faites comme l'AGOA, comme le MCA en termes d'aide publique au développement, mais aussi sur d'autres aspects, sécuritaires, militaires, notamment avec Africom. Tout ça, on a besoin que l'Amérique se montre beaucoup plus présente au niveau de l'Afrique.
Est-ce que l'aide américaine de 60 millions d'euros annoncée lors de la dernière réunion au Conseil de sécurité de l'ONU à New York est une bonne chose?
Oui, ça va dans le bon sens, c'est un geste fort, surtout que le début n'a pas été facile dans les discussions entre nous et les Américains. Déjà autour de la résolution 2359, on a fini par s'entendre, même si les choses ne sont pas dans le sens que nous avons souhaité, mais on a pu sauver un peu les meubles. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une évolution qui a été faite par les États-Unis avec cette annonce de 60 millions, mais d'aide bilatérale, ça veut dire qu'il y a encore des doutes qui subsistent
au niveau américain, en tout cas, il y a des doutes qui subsistent sur la force du G5. Aucune armée prise individuellement ne peut arriver au bout de ce fléau. Comme vous le savez, l'AMUNISMA est au Mali, mais elle n'arrive pas à nous protéger. Le Burkina a, par exemple, jusqu'à 1760 hommes là-bas, au Mali, mais nous sommes tout le temps attaqués. C'est pourquoi la force du G5 apparaît comme un bon complément, parce que ce n'est pas les Nations Unies qui vont venir combattre à Ouaigouya, à Djibo et autres, ou à Tillabéri, côté nigérien. Donc c'est ce rôle-là que va jouer la force du G5. Et c'est pourquoi nous voulons que toute la communauté internationale nous soutienne, l'Amérique en premier, parce que si on ne règle pas le problème au niveau de nos pays, ce terrorisme-là va se propager partout, dans toute l'Afrique de l'Ouest et partout dans le monde, dans toute l'Afrique également.
On annonce que cette force du G5 Sahel sera pleinement opérationnelle au premier semestre 2018. À combien évalue-t-on les besoins de financement de cette force?
Le besoin qui a été estimé par nos armées, le commandement de la force du G5, est de environ 500 millions de dollars. Ou en euros, 423 millions d'euros exactement. Et à ce jour, nous avons réuni environ 108 millions d'euros. Il y a 50 millions donnés par l'Union européenne, il y a 8 millions donnés par la France, il y a 50 millions donnés par les pays, dans les 5 pays réunis, puisque chacun doit contribuer pour 10 millions. Donc le gap est important, et ce que l'Amérique a donné, comme c'est une aide bilatérale, ce n'est pas comptabilisé dans ce besoin. Et c'est pourquoi la réunion de Bruxelles est quelque chose d'assez important pour nous. C'est une étape majeure, puisque c'est là que nous espérons pouvoir boucler le budget avec la table ronde des contributeurs. Et nous appelons à une forte participation, une forte mobilisation des États-Unis à cette table ronde.
Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères, parlait de l'évolution du financement du G5 Sahel. La force conjointe composée du Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritanie et Tchad.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Congo-Brazzaville, libération d'une quinzaine des proches de l'opposant ex-rebelle Pasteur Ntomi. Ils avaient été arrêtés dans la foulée de la réélection contestée du président Denis Sassou Nguesso en avril 2016. Eddie Sango a joint à Brazzaville le leader de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, Trésor Nzila Kende.
Les 10 personnes ont été libérées. Nous ne savons pas concrètement dans quelle motivation, mais tout porte à croire que cette libération va dans le sens d'essayer d'améliorer la crise actuelle dans le pool, mais ça tombe à pic avec notre campagne qui a été lancée. Campagne, bien entendu, vise à montrer rapidement qu'il y a des personnes qui sont injustement incarcérées et qui doivent retrouver leur liberté.
Est-ce qu'on connaît l'essor du pasteur Ntomi? Où est-il présentement?
Il est dans le Poul, dans le département du Poul. Nous ne savons pas précisément là où il se trouve, mais tout le monde en parle. Que ce soit dans les discours officiels des autorités ou dans les discours d'autres structures, c'est bien connu, se trouverait dans le pays.
Qu'en est-il alors des prisonniers politiques comme les généraux Mokoko?
Je ne sais pas s'ils sont concernés par ces mesures, mais est-il que, vu le climat politique et social de la terre, tous les prisonniers politiques doivent être libérés? Le pays a besoin de la cohésion. En réalité, dans une démocratie, on ne peut pas avoir des prisonniers politiques et des prisonniers détenus. Nous espérons que dans les jours qui suivent, le général Jean-Marie Michel Mokoko et les autres qui sont actuellement en prison vont retrouver leur liberté.
Parlez-nous un peu de votre campagne. À quoi consiste exactement votre campagne?
La campagne que nous menons vient d'un simple constat. Il y a eu des personnes qui aujourd'hui sont en prison à cause de leur engagement politique, à cause de leur choix politique et qui sont aujourd'hui injustement incarcérées. La détention de ces personnes va au-delà de toute obligation légale du gouvernement congolais en matière de détention, en matière d'arrestation et de détention des personnes. Plus d'une année après après son jugement, il est clair que le maintien en détention de ces personnes ne se justifie plus. C'est pourquoi cette campagne a été lancée pour mobiliser la communauté internationale, pour mobiliser l'opinion nationale, pour que les gens comprennent qu'il y a des prisonniers politiques au Congo et que ces personnes doivent être libérées.
Trésor Nzila Kende de l'Observatoire congolais des droits de l'homme à Brazzaville.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Au Niger, Niamey, la capitale, a abrité une réunion d'experts du projet paludisme et maladie tropicale négligée. C'est un projet de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, OOAS. Durant deux jours, les experts ont passé en revue les progrès enregistrés dans le cadre de la lutte contre ces maladies dans les trois pays d'intervention du projet, qui sont donc le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le point dans ce reportage est signé Abdelrazak Idrissa.
Dans les trois pays où intervient le projet, le paludisme et les maladies tropicales négligées constituent de véritables problèmes de santé publique. Le paludisme, par exemple, est la première cause de morbidité et de mortalité. C'est pour accroître l'accès et l'utilisation des services à base communautaire de santé pour la prévention et le traitement de ces maladies que le projet est mis en œuvre dans les zones frontalières de ces trois pays. La rencontre de Niamey a permis aux experts de chacun de ces pays de présenter les résultats auxquels ils sont parvenus depuis le début de la mise en œuvre. Docteur Lamine Diarra, venu du Mali.
Lorsqu'on fait les campagnes de la chimio-prévention du paludisme dans une localité, on diminue de 70 à 80% les cas de paludisme. Si on diminue de 80% les cas de paludisme, ça veut dire que les paludismes graves, là, on les évite. On évite les gens de mourir de paludisme. Et même ces cas graves de paludisme, nous le prenons en charge gratuitement. Donc, vous voyez, c'est important.
Au Burkina Faso, avec l'intervention du projet, la transmission de plusieurs maladies tropicales négligées a été interrompue, selon Dr Drabo François, point focal du projet dans son pays.
Dans la zone du projet, nous avions une endémicité des maladies tropicales négligées, mais déjà avec deux ans de mise en œuvre au niveau du Burkina Faso, nous n'avons plus la transmission de la filariole lymphatique est interrompue dans tous ces districts-là. La transmission du trachome est également interrompue dans tout ce district. Et il nous reste la cytosomiase qu'on appelle la bilharziose, qui encore existe de façon résiduelle et qui, d'ici la fin du projet, sera sous contrôle assurément.
Césaire Ahanzo, coordonnateur de l'unité de gestion des projets à l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, organisme spécial de la CEDEAO qui coordonne ce projet régional, explique ici l'approche globale du projet.
Le projet PMTN travaille essentiellement sur deux stratégies. Pour le paludisme, c'est la chimio-prévention du paludisme saisonnier qui permet avant la saison hivernale d'administrer des médicaments qu'on appelle le SPAQ, aux enfants cibles d'âge inférieur à 5 ans, pour les prévenir contre le paludisme. Et en ce qui concerne les maladies tropicales négligées, il s'agit aussi de faire les traitements appropriés, de faire des distributions de masse de médicaments pour prévenir et lutter contre les maladies tropicales négligées et aussi la prise en charge des invalidités réversibles. Et vous comprenez combien ce projet est aussi pratique.
Financé à hauteur de 121 millions de dollars américains, la fin du projet est prévue pour 2020. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons du dépistage du VIH-SIDA chez les enfants.
Nous nous intéressons à la PCR, un test sophistiqué recommandé pour les nouveau-nés. Une méthode qui se heurte à de nombreux blocages en Afrique.
Des blocages d'ordre technique, social et même économique, comme nous le verrons avec le docteur Malik Koulibaly, médecin épidémiologiste.
Pourquoi, quand et comment faire ces tests? Le professeur Madeleine Folquet, pédiatre en Côte d'Ivoire, répondra à ces questions.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredi à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Avant de vous quitter, une information qui vient de nous parvenir sur le Zimbabwe. L'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa est de retour à Harare. Il est rentré hier. Son éviction a provoqué le coup de force de l'armée contre le régime du président Robert Mugabe. L'AFP cite une source proche de M. Mnangagwa et proche aux militaires qui retiennent M. Mugabe en résidence surveillée. Vous vous rappelez que M. Mugabe a refusé de démissionner. Et c'est la fin de cette édition matinale. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Merci de l'avoir suivi. À la console, c'est Jonah Cunningham. Merci Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Eric Maniakiza vous dit à très bientôt.